Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui fait beaucoup de bruit en ce moment, le vibe coding. L'idée, c'est de pouvoir créer une application simplement en la décrivant, vous savez, en conversant avec une intelligence artificielle. Une promesse immense, en fait. Rendre le développement logiciel accessible à n'importe qui sans jamais toucher à une ligne de code.
Et pour ancrer notre discussion dans le réel, nous se base sur l'expérience concrète d'un journaliste, un parfait néophyte, qui a justement mis cette promesse à l'épreuve. Il a essayé de bâtir sa propre application d'analyse de données avec quatre des outils les plus en vue du moment, Cursor, Replit, Visual Studio avec GitHub Copilot et Lovable.
Ce qui nous amène à la question centrale de notre échange, est-ce que cette nouvelle génération d'outils d'IA tient vraiment sa promesse ? Est-ce qu'elle permet réellement à un débutant de construire une application qui fonctionne ? Ou est-ce que cette simplicité apparente n'est qu'un mirage qui cache une complexité toujours bien présente ?
Pour ma part, je pense que cette expérience est surtout un avertissement. Elle met en lumière les limites profondes de cette approche pour quelqu'un qui n'y connaît rien, et montre que la route vers une vraie démocratisation est encore très très longue.
Et je défendrai le point de vue inverse. Pour moi, malgré des défauts de jeunesse évidents, ces outils représentent une véritable rupture, un abaissement sans précédent des barrières à l'entrée dans le monde de la création numérique. Je pense qu'il faut vraiment mesurer ce qui s'est passé. C'est la première fois qu'une personne sans aucune compétence technique peut formuler une idée et voir une IA non seulement écrire du code, mais aussi configurer tout l'environnement de travail, trouver et installer les bons composants et même assembler une interface utilisateur. Ce sont des tâches qui, il y a encore 2 ans, prenaient des jours à un développeur junior. Le journaliste a été électrisé par ses débuts sur Cursor, et on le comprend, c'est presque magique.
Électrisé au début peut-être, mais très vite déçu, non ? La magie s'estompe rapidement quand l'outil perd tout l'historique de la conversation, le forçant à tout recommencer de zéro.
Mais c'est un bug frustrant, inacceptable, j'en conviens, mais c'est un défaut de jeunesse d'un produit, pas une condamnation du concept. Le point essentiel, c'est ce qui arrive à la fin. Après plusieurs essais, avec l'outil Lovable, il a une application fonctionnelle qui se connecte à ses données via un service externe et qui effectue l'analyse sémantique qu'il demandait avec un modèle comme Gemini. C'est une preuve de concept irréfutable. Le seuil d'accès n'a jamais été aussi bas.
Jamais aussi bas, peut-être, mais à quel prix ? Vous parlez de révolution, je vois surtout un parcours du combattant. Ce n'est pas une histoire de succès, c'est un récit de frustration, de contournement et au final de compromis. Rappelons son objectif de départ, analyser ses documents personnels, des fichiers au format .page sur son ordinateur. Cet objectif, il ne l'a jamais atteint. Jamais.
Mais il a obtenu autre chose, quelque chose de fonctionnel.
Il a obtenu une version rudimentaire, pour reprendre ses propres mots. Et comment ? En abandonnant complètement son projet initial. Il a dû payer un abonnement de $25 par mois, renoncer à ses fichiers locaux et apprendre à utiliser un service cloud, Algolia, pour y transférer ses données dans un format structuré. Vous appelez ça de la démocratisation ? Moi, j'appelle ça forcer l'utilisateur à adapter son problème à l'outil et non l'inverse. Un vrai novice se serait arrêté bien avant. Ces outils ne suppriment pas la complexité technique, ils la déplacent. La compétence n'est plus de savoir coder, mais de savoir débugger l'IA et de reformuler son problème jusqu'à ce que l'IA le comprenne.
Je ne suis pas d'accord avec votre définition du succès. Vous la jugez à l'aune d'un développeur expérimenté qui, lui, vise un produit parfait. Pour un novice, obtenir un produit minimum viable, même s'il est imparfait et différent du plan initial, c'est une victoire colossale. L'alternative pour lui, ce n'était pas une meilleure application. C'était pas d'application du tout. Le néant. Là, il a un objet concret qui fonctionne, qui interroge ses propres textes avec un modèle d'IA de pointe. C'est une base tangible pour itérer. C'est ça la vraie démocratisation. Donner un point de départ, matérialiser une idée qui autrement serait restée dans la tête de son créateur.
Mais attendez, un produit qui ne répond pas aux besoins initiaux est vraiment un succès en boîte. Son besoin, c'était d'analyser ses archives, ses brouillons, dans le format où ils existaient. C'est un cas d'usage très courant. L'outil a échoué. Le prétendu succès n'a été possible qu'en transformant radicalement le problème. Il est passé de « comment analyser mes fichiers .page en local » à « comment analyser une base de données XML structurée sur le cloud ». Ce sont deux problèmes de complexité radicalement différentes.
Mais n'est-ce pas là une forme d'apprentissage ? L'outil, par ses contraintes, l'a peut-être guidé vers une solution plus robuste, plus scalable. Il a appris qu'un format structuré est plus facile à traiter.
Il a surtout appris que l'outil était incapable de gérer le désordre du monde réel. Un vrai débutant qui veut juste analyser ses documents Word n'a pas ses données sur Algolia et ne sait même pas ce que c'est. Il se serait heurté à un mur infranchissable. Ce n'est pas l'outil qui s'est montré intelligent en s'adaptant à l'utilisateur, c'est l'utilisateur, qui est un journaliste technique et donc déjà un peu averti, qui a dû faire preuve d'ingéniosité pour contourner les limites de l'outil. Ce n'est pas un succès universel, c'est un cas particulier qui a fonctionné grâce aux compétences cachées de l'utilisateur.
Vous vous focalisez sur la gestion des données, mais vous ignorez le changement de paradigme fondamental dans l'interaction. On ne code plus, on converse. C'est ça la révolution. Les frustrations qu'il a rencontrées, la perte de l'historique sur Cursor, les quotas sur Replit, ce sont des problèmes d'implémentation. Demain, un outil corrigera le bug de Cursor, un autre proposera un modèle économique plus généreux que Replit. Ce qui restera, c'est cette nouvelle manière de créer, en passant de la syntaxe à l'intention. C'est ce changement qui est porteur de toutes les promesses.
Une promesse qui est constamment trahie par l'expérience utilisateur. Vous parlez d'une simple conversation, mais la réalité qu'il décrit est bien plus angoissante. Les outils installés sur son ordinateur, comme Cursor et Visual Studio, l'ont sans cesse renvoyé vers quoi ? Vers le terminal. Cette fenêtre noire, cryptique, qui est le symbole même de la complexité que le vibe coding promettait d'abolir.
Mais c'est peut-être un mal nécessaire pour le moment. L'IA fait, disons, 95% du chemin, et il ne reste plus à l'utilisateur qu'à copier-coller une commande qu'on lui donne. C'est un progrès immense, non ?
Pour vous ou moi qui savons ce qu'est un terminal, peut-être. Mais mettez-vous à la place du novice à qui on a vendu un monde sans code. Voir cette fenêtre noire apparaître, c'est la fin de la promesse. C'est le moment précis où il se dit « en fait, ce n'est pas pour moi ». Copier-coller des lignes de commande sans les comprendre n'a rien d'émancipateur, c'est anxiogène. C'est admettre que la machine a encore le contrôle et qu'on ne fait qu'obéir à des ordres obscurs.
Je vois ça plutôt comme une passerelle. Une dernière étape manuelle avant que tout soit 100% automatisé. C'est temporaire.
Et que dites-vous des outils cloud comme Replit ou Lovable ? Là, pas de terminal, c'est vrai. Mais une autre angoisse surgit. Le compteur qui tourne, l'expérimentation libre, le droit à l'erreur. Et tout ça se transforme en une transaction financière. Chaque test, chaque tentative infructueuse consomme des crédits. On n'est plus dans un processus de création, on est dans la gestion d'un budget. Ce n'est pas un environnement accueillant pour apprendre et explorer. On lui vend un rêve de création sans friction et on lui livre une réalité faite de lignes de commande et de factures.
C'est un modèle économique. Créer des logiciels a toujours eu un coût, que ce soit en temps, en formation ou en outils. Ici, le coût est transparent et directement lié à l'usage. Et je pense que vous sous-estimez ce que l'utilisateur retire de cette expérience. Il n'apprend peut-être pas à coder, mais il apprend quelque chose de bien plus fondamental, à structurer sa pensée, à définir précisément ce qu'il veut. L'auteur le dit lui-même, il a réalisé à quel point il était difficile de formuler une demande claire. Ces outils n'ont pas pour but de rendre la compétence humaine obsolète, mais de l'élever.
L'élever ou la brider ?
L'élever, en automatisant les tâches techniques, la syntaxe, la configuration, il permet au créateur de se concentrer sur l'essentiel, la vision du produit, la logique fonctionnelle. L'IA gère le comment, l'humain se concentre sur le quoi et le pourquoi. C'est une nouvelle répartition des rôles qui valorise la pensée stratégique.
L'auteur, son expérience se termine sur une admiration renouvelée pour les programmeurs. Pourquoi ? Parce qu'il a heurté de plein fouet les limites de l'automatisation. Il raconte très bien le moment où il a voulu aller plus loin qu'une simple recherche par mots-clés avec Visual Studio. Il voulait une véritable analyse, comprendre l'évolution des thèmes, idées et perspectives dans ses écrits. Une tâche conceptuellement assez complexe.
Et l'IA n'a pas réussi ?
Elle a été totalement incapable de l'aider. Elle lui a fourni une bête fonction de recherche de texte, une correspondance de chaîne de caractères, c'est-à-dire le niveau zéro de l'analyse sémantique. Cela prouve que dès qu'on sort des sentiers battus, dès que la demande exige une compréhension un peu fine de la logique, du traitement de données ou de l'analyse de contenu, l'IA est perdue. Pour créer une application qui a une vraie valeur ajoutée, qui n'est pas juste un gadget, la compréhension des concepts de base de l'informatique reste indispensable. L'IA est un assistant, un stagiaire très rapide, mais elle ne remplace pas l'architecte du projet.
Vous prenez l'échec d'un outil à un instant T pour une condamnation de toute l'approche. C'est comme si on avait critiqué la première voiture parce qu'elle ne pouvait pas traverser un océan. Évidemment que les modèles actuels ont des limites, mais ils s'améliorent à une vitesse exponentielle. Ce qui était impossible pour l'IA de Visual Studio hier sera peut-être sa fonctionnalité phare demain. Ce qui compte, c'est la trajectoire. Et la trajectoire est claire. De plus en plus de complexité technique est absorbée par l'IA, libérant de plus en plus l'humain pour la créativité.
Mais cette créativité est contrainte par les capacités de l'outil. L'IA n'a pas seulement échoué à répondre à sa demande complexe. elle a activement réduit son ambition. Il voulait un outil d'analyse puissant, il a fini par se contenter d'un moteur de recherche. L'outil ne l'a pas aidé à réaliser sa vision, il l'a forcé à réduire sa vision pour qu'elle corresponde aux faibles capacités de l'outil. Ce n'est pas une élévation, c'est un nivellement par le bas. On risque de voir émerger une myriade d'applications gadgets, toutes construites sur les mêmes briques de base que l'IA s'est manipulée, mais très peu de véritables innovations.
En résumé, je reste convaincu que, malgré les obstacles, le fait qu'un non-programmeur ait pu en quelques jours créer une application sur mesure est une révolution en soi. C'est la preuve que le VIP coding est déjà une réalité, même si elle est imparfaite. Les outils vont s'améliorer, les bugs seront corrigés, les interfaces seront plus intuitives. Cette expérience n'est qu'un aperçu d'un futur où des millions de personnes qui ont des idées, mais pas la formation technique, pourront enfin donner vie à leur projet. Nous assistons au balbutiement d'une nouvelle ère de création.
Et je conclue en disant que cette expérience illustre surtout le gouffre qui sépare le marketing de la réalité. Ces outils sont des formidables assistants, oui, mais pour ceux qui savent déjà programmer, qui peuvent guider l'IA, repérer ses erreurs et parler son langage quand c'est nécessaire. Pour les vrais débutants, ils sont une fausse promesse. Ils les attirent avec la simplicité et les abandonnent au premier obstacle technique face à un terminal ou un formulaire de carte de crédit. Loin de démocratiser la création, ils risquent de créer une nouvelle source de frustration et de confirmer aux néophytes que, décidément, la technologie n'est pas pour eux. Le véritable défi de la création logicielle, lui, reste entier.
Cette tension que vous décrivez entre la promesse d'une accessibilité totale et la persistance d'une complexité bien réelle est sans doute la dynamique la plus intéressante à observer dans la technologie aujourd'hui.
Qu'un point de départ pour une réflexion beaucoup plus large.